Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour, quand, comment, où la vie commence-t-elle ? Il s'agit de la gestation pour autrui, plus connue sous le nom de mère porteuse. On va en parler avec Marie-Thérèse Armange. Bonjour Marie-Thérèse Armange.
Bonjour.
Sénateur UMP de Paris, membre du Conseil national consultatif d'éthique, membre correspondant de l'Académie de médecine. Vous êtes très impliqué dans ces questions-là. Vous étiez député européen également, vous avez une carrière politique qui vous permet aussi d'accéder à l'information et de faire valoir vos connaissances auprès du grand public et du monde politique. Alors, il y a une actualité qu'il va falloir expliquer pour que ceux qui nous écoutent sachent bien de quoi il s'agit. Il y a eu une nouveauté en octobre 2008, Marie-Thérèse Armange. De quoi s'agit-il précisément ?
Oui, il y a eu une jurisprudence à propos d'un couple qui avait accouché de jumelles aux États-Unis et qui s'est trouvé devant un certain nombre de difficultés lorsqu'ils ont voulu faire inscrire leurs enfants à l'état civil. Et donc, le problème de la filiation de ces enfants s'est posé. Alors, je voudrais essayer de faire comprendre à nos auditeurs un petit peu ce que c'est que la GPA. Alors, d'abord, on appelle gestation pour autrui aujourd'hui parce que, effectivement, cela donne une connotation altruiste. En fait, il s'agit de faire porter via l'insémination artificielle à une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, de faire porter cet enfant par une autre femme. Alors concrètement, vous pouvez avoir, par exemple, une mère porteuse et un enfant qui va naître avec 5 parents. Par exemple, vous avez un don de gamètes et un don d'ovocytes anonyme, vous avez le couple commanditaire et vous avez la mère porteuse. Et in fine, donc vous arrivez à une filiation fragmentée et quelquefois vous ne pouvez ne pas avoir de parents du tout parce que imaginez que vous avez les dons qui sont anonymes, vous avez les parents qui ont eu un accident ou ne veulent plus de l'enfant parce qu'il y a eu un handicap et la mère de l'enfant, voyant que l'enfant est né dans des conditions difficiles, la mère qui a porté l'enfant ne veut pas l'accepter. Alors, je voudrais quand même être clair d'abord.
Un point quand même sur cette histoire
est-ce qu'il faut...
américaine.
Oui.
Parce que la qualité de parent a été reconnue.
Oui, la qualité de parent a été reconnue par la jurisprudence. Mais il y a eu appel et la décision n'est pas encore tout à fait définitive. Alors, je voudrais être claire là-dessus. En fait, on dit que les enfants qui naissent de cette façon-là à l'étranger sont privés de filiation maternelle. Je voudrais rappeler que, d'une part, les enfants qui naissent d'une mère porteuse à l'étranger ne sont jamais privés de filiation ni maternelle ni paternelle. D'abord, ils disposent dans tous les cas des actes de naissance étrangers qui établissent leur filiation, aussi bien à l'égard de la mère intentionnelle que du père intentionnel.
Mais il y avait un problème de ce point de vue-là ? Quel était le problème ?
Non, la retranscription en droit français. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Vous naissez à l'étranger via une mère porteuse. Vous avez automatiquement, si vous êtes né aux États-Unis, une filiation américaine. Ensuite, vous dites, je veux absolument faire retranscrire cette filiation
en France, pour qu'il ait la citoyenneté française.
Qu'est-ce qui se passe ? Sur les 700 cas qui sont produits depuis les années 2000, soit le consul dit, il n'y a aucun problème, il passe dessus et les enfants sont inscrits sur l'état civil. Soit le consul dit, oui, il y a quelques petits problèmes, il transcrit. Et donc l'enfant a droit à une carte d'identité, une carte de sécurité sociale. Et le seul acte qui n'est pas possible, c'est de transcrire les enfants sur le livret de famille.
Il n'y a pas de livret de famille pour les enfants nés d'une mère porteuse.
Tout dépend de la décision du consul. Sur les 700 cas qu'il y a eu depuis les années 2000, le vice-procureur du tribunal de Nantes nous a dit lors de la commission des affaires sociales qu'il y avait eu seulement 2% de cas qui posaient problème. Soit, troisième solution, le consul dit « il y a un problème, vous violez l'ordre public en raison d'un des principes fondamentaux de droit qui est le principe mater semper certa est, c'est la femme qui accouche qui est mère, et à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir de filiation française. Et c'est pour 2% de cas, autrement dit, sur les 700 cas, qu'il y a, c'est-à-dire 15 cas, qui posent problème. Parce que soit, si vous voulez, le consul passe outre.
Comme si vous accouchiez à l'étranger, en fait.
Comme si, effectivement, on accouchait à l'étranger et passe outre. Et, j'ai envie de dire, pour les enfants, les 2% de cas qui existent, il est tout à fait possible d'obtenir des droits vis-à-vis de l'enfant au travers du partage de l'exercice de l'autorité parentale. C'est l'article 377 du Code civil. Il est tout à fait possible d'accomplir les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant. Et il est tout à fait possible de bénéficier, par exemple, du tutorat en cas de décès du père. C'est l'article 397 du Code civil. Autrement dit, lorsqu'on nous dit il faut consentir à légaliser la maternité pour autrui parce qu'il y a un problème de filiation, il y a un problème de filiation d'ordre anthropologique, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais sur l'ordre de l'état civil...
Il n'y a pas de problème, ou très peu.
Il y a très peu de problèmes.
Il y a 15 cas.
Et il y a 15 cas. Et de toute façon, j'ai envie de dire à mes collègues, j'ai participé à un groupe de travail au Sénat, le rapport tel qu'il est sorti, les propositions telles qu'elles sont sorties du Sénat, ne permet pas de résoudre les 15 cas, parce qu'il n'y a aucune proposition pour ces 15 cas. Alors ça, c'est le premier point. Est-ce que par rapport à la réalité, on doit légaliser la maternité pour autrui, pour les raisons que je vous ai expliqué, je pense que non. La deuxième chose, c'est...
Clairement, vous semblez dire qu'on fait toute une histoire pour 15 cas. Donc ça prouve que ça résulte, si cette histoire arrive sur le tapis de l'opinion publique, c'est bien qu'il y a des origines peut-être un peu plus profondes. On va revenir sur les causes anthropologiques
parce que,
après.
Mais... si vous voulez, si je reviens sur la réalité des faits, j'ai envie de dire aussi qu'aucune législation ne pourra résoudre tous les problèmes de filiation des enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger. Imaginez demain que le Parlement légifère dans tel cadre et elle dit à telle ou telle condition, on a la possibilité d'être mère porteuse. Par exemple, la gestatrice ne pourra pas être la mère génétique de l'enfant. Elle devra avoir déjà eu au moins un enfant. Une femme pourrait mener plus de 2 grossesses, etc. Imaginez qu'on ait un certain nombre de cadres.
Qu'on verrouille un peu.
Tous les enfants qui seront nés avec cette pratique, mais hors ce cadre, on se retrouvera avec les mêmes problèmes de filiation, puisque le tourisme procréatif existe, il ne sera nullement éradiqué, et les difficultés juridiques actuelles qui lui sont liées ne seront nullement résolues, car quand d'autres cas se présenteront hors des frontières que nous aurons fixées, il faudra soit refuser la filiation, soit à nouveau changer de loi.
Alors ça, c'est la première question. C'est quand ça se produit à l'étranger, ça ? Parce que dans le cas où la GPA est légalisée pour la France, on a plus ce problème de savoir si à l'étranger, de tourisme, si à l'étranger il faut aller, si...
Mais vous l'aurez toujours, parce que quand vous ferez une législation pour la France, vous prendrez un certain nombre de conditions.
Il y aura un dumping
des autres
pays.
Vous direz, par exemple, il y aura des conditions d'éligibilité. Alors vous aurez des conditions qui sont requises pour les bénéficiaires, pour être gestatrice. Par exemple, les bénéficiaires de la gestation pour autrui devraient former un couple composé de personnes de sexe différent, mariées ou à mesure de justifié d'une vie commune d'au moins 2 ans. Si vous ne justifiez pas fait d'une vie commune d'au moins 2 ans et que vous êtes dans un autre cadre, eh ben déjà, vous allez à l'étranger parce que les conditions sont plus larges. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ?
Se reposera la question
C'est ce que je vous dis. À ce moment-là, la question de les difficultés juridiques se reposeront. Et soit il faudra refuser la filiation, soit on changera à nouveau de loi.
Mais quand on dit Marie-Thérèse Armand, je me permets, sur l'affaire américaine...
Quelle sera, par exemple, la situation d'une femme de 50 ans souffrant de ne pas être grand-mère et qui a imaginé de concevoir et d'implanter un embryon conçu à partir de gamètes de son enfant unique, trisomique, dans la matrice d'une mère porteuse, parce qu'elle avait envie d'être grand-mère.
Bon. Là, on atteint des sommets de complexité.
Et d'autre part, par exemple, dans les recommandations du groupe de travail, il est prévu des conditions de stérilité. Mais on a vu il y a 15 jours qu'une femme de 59 ans pouvait accoucher. Donc qu'est-ce que c'est que la stérilité ? On est stérile à partir de quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, la stérilité ? Ça, c'est au regard de la réalité, j'ai envie de dire. Mais ensuite, je pense qu'il faut bien regarder, si vous voulez, quelles sont les implications d'une telle légalisation. C'est-à-dire, à quoi suis-je disposé, en tant que législateur, à renoncer ? Alors, ça a des conséquences juridiques. Parce que qu'est-ce qu'on consent à cela. En France, on a 2 principes fondamentaux qui est le principe, c'est la femme qui accouche, qui est la mère. Ça s'appelle mater Saint-Père, Certa Est, article du Code civil, consacré récemment par une ordonnance de 2005, donc très récente, qu'il a généralisée en étendant à la filiation hors mariage et qui est garantie à l'enfant l'évidence de la filiation maternelle. Eh bien, soit je dis, ce principe est un principe fondamental.
Immuable.
Immuable. Et à ce moment-là, en acceptant la mère porteuse, je légalise un abandon d'enfant. Puisqu'en fait, la femme qui accouche, au bout de un jour, deux jours, trois jours, va être obligée de faire un petit baiser à son enfant et de dire « je te le remets ». Autrement dit, en légalisant, la société dit « je te donne l'autorisation, finalement à toi qui as accouché, de déroger à ce principe et d'abandonner cet enfant ».
Autrement dit, cette dame, elle le savait qu'elle devait abandonner son enfant puisqu'il y a un contrat. Quand vous êtes mère porteuse, vous devez le rendre à la personne.
Pour la société, vous voyez ce que ça signifie. Ça implique quand même, quelque part, que l'ordonnance de FIV, puisque ça passe par une, équivaut quand même à une ordonnance d'abandon d'enfant. Bon. C'est-à-dire que les médecins sont dans une position très, très étrange aussi. Le législateur donne cette autorisation. Et le médecin, le gynécologue qui va accoucher, eh bien, il est là, il prescrit l'abandon sur ordonnance. Ça a quand même quelque chose de... Soit on considère, si vous voulez, que l'enfant est celui des commanditaires, et alors on transforme alors la mère porteuse en un sac. Soit nous disons que l'enfant est celui de la mère porteuse, et en légalisant, quelque part, la société, elle se fait père et mère anonyme de ses enfants, tout en se défaussant de sa responsabilité en matière de filiation.
Alors vers quel
puisque
type de
la mère porteuse, elle sera amenée à dire « c'est mon enfant, mais je le donne ». À tel point d'ailleurs que dans les propositions du rapport du groupe de travail du Sénat, qui n'est pas le rapport du Sénat, il est institué un droit de repentir, un droit de remords. C'est quand même extraordinaire de mettre en place un droit de repentir, un droit de remords.
Pour la femme qui portera l'enfant.
Pour la femme qui porte. Voyez la différence. Quand un enfant est abandonné, la société répare un préjudice par une politique d'adoption. Là, la société elle a une démarche inverse. Elle légalise un abandon d'enfant. Et elle présuppose quoi ? Elle présuppose aussi que toute politique d'adoption est tarie, que toute politique d'adoption ne peut pas assouplir ces conditions et finalement qu'un enfant adopté n'a plus de légitimité. Donc, moi, ce que je trouve très très grave, c'est que soit effectivement on se couche sur ce principe mater semper sata est et on remet en cause ce socle pour quelques cas. Et d'autre part, soit effectivement, on l'affirme.
Mais si on l'affirme, on enterre le sujet.
Et d'autre part, on se trouve, si vous voulez, toujours avec ces sujets-là, dans des problèmes d'identification de seuils anthropologiques qui sont quand même très complexes. Parce qu'il est quand même curieux qu'à peine une loi française qui vient d'entériner un arrêt, l'arrêt Marx, qui disait, à savoir que le nom de la femme qui a accouché sur l'acte de naissance suffit à établir la maternité, ce principe apparaît tout à coup si peu évident. L'accouchement, est-ce qu'il deviendrait une présomption de maternité aussi précaire et discutable que la présomption de paternité légitime ? Deuxièmement, on a un autre principe fondamental qui est, dans notre droit français, l'indisponibilité du corps humain. Or, ce qui m'a vraiment frappé quand notre groupe de travail a été en Angleterre et qu'on a été au ministère de la Santé, on a passé 2 heures avec les responsables du ministère de la Santé britannique qui nous ont expliqué qu'ils avaient fait une loi pour établir le contrat et le coût entre la mère porteuse et la commanditaire, parce qu'ils avaient un certain nombre de cas qui s'étaient produits et qu'il fallait adopter une politique de dédommagement. Alors, en France, si vous voulez, on ne parle pas, dans les rapports du groupe du Sénat, on ne parle pas de contrat, on parle de convention. Toujours est-il que, quelque part, on fait rentrer le droit des contrats, qui est un droit de contrat privé, dans le droit de la filiation. Parce que on est obligé de dire quand même à la femme qui va porter, est-ce qu'elle va manger des carottes, qu'est-ce qu'elle va, comment elle va être dédommagée
inévitablement.
Pour tous ses frais, etc. Donc la question qui se pose, c'est aujourd'hui, dans le droit français, toute convention qui a pour objet le corps humain est nulle. D'accord ? Donc, si je fais un contrat, mais je le fais d'abord sur qui ? Quel est l'objet du contrat ? L'enfant ?
Là, vous êtes obligé de remettre en cause cette disposition, inévitablement.
L'enfant à naître ?
Mmh. Ça sera toujours le corps humain.
Comment sera-t-il résilié ? Qu'adviendra-t-il de la qualité du produit négocié dans le contrat lorsque celui-ci ne répondra pas aux désirs des commanditaires ? En cas de handicap, par exemple. Je vous cite un exemple.
Là, on est dans la marchandisation complète.
Oui,
là,
hein. Le professeur Jean Bernard a donné un exemple survenu, donc il y a quelques temps, hein, aux États-Unis, d'un couple de milliardaires ayant conclu un contrat avec une mère de substitution. Pour 15 000 dollars, la femme accepte de recevoir le sperme du milliardaire. 9 mois plus tard, naît un enfant mal formé. Les milliardaires déclarent qu'ils n'en veulent pas. La mère de substitution allègue son bon droit et réclame ses 15 000 dollars. Un procès a lieu. Les magistrats américains nomment des experts. L'étude des groupes sanguins révèle que l'enfant mal formé n'est pas le fils du milliardaire, mais le fils du mari de la mère de substitution qui n'avait pas observé une chasteté suffisante pendant les jours entourant l'insémination.
Et donc, elle n'a pas été payée ?
Et donc, des cas comme ça, vous en aurez.
Oui.
Alors, que fera-t-on, par exemple, quand la discorde s'installera chez les époux qui ont commandé l'enfant et qui n'en veulent plus ?
Mais Marie-Thérèse
Que
Arrange.
Fera-t-on quand la mère biologique sanctionnera le père biologique ? Bon. Donc,
Faire gagner beaucoup d'argent aux avocats, ça, en fait.
Bon, voilà, mais et moi, simplement, je dis, au regard des conséquences juridiques, est-ce que, si vous voulez, on est d'accord pour remettre en cause des catégories juridiques fondamentale arrivant à l'abandon d'enfants.
On marque une pause. Marie-Thérèse Armange.
Canal Académie vous ouvre les portes de l'Académie des sciences. Les académiciens se prêtent au jeu du portrait dans l'émission En habit vert, répondent aux questions de société dans Éclairage et vous présentent leurs derniers ouvrages dans Au fil des pages. Retrouvez Yves Coppens, Étienne-Émile Beaulieu, Albert Fert, Georges Charpak, Axel Kahn, Nicole Ledouarin et bien d'autres encore. Des émissions en téléchargement gratuit sur canalacademy.com.
Marie-Thérèse Armange, sénateur UMP de Paris, membre du Comité national consultatif d'éthique, le CNCN, membre correspondant de l'Académie de médecine qui nous parle des mères porteuses sous cet intitulé un petit peu plus général, mais c'est un angle d'attaque que nous avons délibérément choisi. Où, quand commence la vie, puisque évidemment les frontières de l'existence humaine et de la personnalité humaine s'obscurcissent, deviennent extrêmement floues. Et on a bien compris, à la mesure de votre raisonnement, à quel point les choses se dilataient et se fractionnaient, et à quel point l'humain devenait un objet de marchandise et de traction. Alors d'abord, avant l'aspect anthropologique, j'aimerais vous poser une question. Il y a la révision des lois de bioéthique en 2009. Vers quel type de piste s'achemine-t-on entre les choix que vous avez mentionnés ? Est-ce que la France a déjà un peu une option sur l'idée de préserver la filiation dans le sillage de la mère porteuse ? La mère porteuse sera la mère de l'enfant, ou alors ce sera le commanditaire qui sera
Mais nous ne connaissons pas encore le texte du projet de loi, puisque vous savez...
Mais est-ce qu'on a une idée déjà un peu de ça ?
Le gouvernement a décidé de lancer des états généraux de la bioéthique qui vont se dérouler dans le premier semestre 2009, à partir de plusieurs thématiques. La recherche sur l'embryon, le prélèvement d'organes. Je suis tout d'ailleurs à une manifestation avec Madame Bachelot sur le don d'organes, sur la gestation pour autrui, sur le diagnostic. Donc dans ce grand paquet sera posé un certain nombre de questionnements. Et moi, la question que je pose, si vous voulez,
mais vous sentez une pression en faveur des GPA ? Est-ce qu'il y a un lobby qui pousse à cela ? Est-ce que vous voyez qu'il y a de gros intérêts derrière ? Ou pas ? Ou est-ce que ça relève un peu d'une sorte de...
Oui, il y a quand même une certaine pression pour que l'Académie de médecine fait partie d'un groupe de travail à l'Académie de médecine, un groupe de travail au Sénat...
Mais une pression pour l'imposer, j'entends.
Le Comité national d'éthique a réfléchi. Tout ça va sûrement aboutir à quelque chose. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce que le gouvernement nous présentera dans le cadre du projet de loi. Et c'est bien normal, puisqu'il a décidé de questionner la société civile. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, par rapport à votre question, c'est que, et je l'ai vu moi-même dans mon propre entourage, c'est que, quelque part, aujourd'hui, le législateur doit réparer toute souffrance. Autrement dit, quel est le degré de souffrance que la société, que chacun est susceptible d'accepter? Et à partir de là, est-ce qu'on élabore une législation du désir pour répondre à la question de la souffrance? Bon, et à quoi je consens? Si vous voulez, c'est la même question qui se pose quelque part pour l'euthanasie. Moi, si en tant que législateur, je légalise l'euthanasie, je légifère non pas sur ma propre mort, mais je légifère sur la mort de l'autre. Je légifère sur la possibilité à l'autre de dire « je te donne la faculté par rapport à celui qui me questionne de lui dire « tu as la possibilité » aujourd'hui de consentir. Et moi, quelque part, le législateur, tout d'un coup, est devenu un personnage, si vous voulez, anonyme, qui se veut quelque part le maître de la vie. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. À quoi je consens en tant que législateur lorsque j'ai à délibérer sur la vie? Moi, c'est un questionnement, si vous voulez, tout à fait fondamental. Alors, pour en revenir à la filiation, vous avez employé un mot de tractation. Bon, on a affaire aujourd'hui à une filiation qui est fragmentée. On sait tous que, en tant que parents, que la filiation, elle est aujourd'hui de trois ordres. Elle est biologique, elle est juridique et affective, et que les trois sont impliquement liés. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant avec la gestation pour autrui, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que à travers le processus de la production d'humain, de la conception à la mise au monde, le cadre de la filiation est bouleversé parce qu'il devient un droit octroyé qui aboutit à une filiation qui est fragmentée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir plusieurs parents tout en étant orphelin. Et si le biologique n'est jamais de taille à épuiser le symbolique et l'affectif des rapports de filiation, ils sont toujours quand même à l'objet d'une construction personnelle. Et d'autre part, on a une filiation qui est amputée. Hannah Arendt a un très beau propos. Pour être dans mon identité, je dépends entièrement des autres. Or, la gestation pour autrui, elle fonctionne quelque part, et comme toute la fécondation in vitro, comme une amputation bilatérale du moi. Et alors qu'on a eu un débat récemment, il y a 4-5 ans, sur l'accouchement sous X, on va voir naître un débat, maintenant d'ailleurs il y a un livre récemment qui est sorti, né de spermatozoïdes anonymes.
Donc on va diviser son origine identitaire entre ses parents adoptifs, en quelque sorte, enfin les commanditaires, et puis la mère porteuse.
Voilà. Alors, Sylvia Nagasansky, donc, qui est une philosophe, on la connaît bien, précise que là où le droit autorise la gestation pour autrui, on signale des cas dans lesquels la mère de substitution refuse de donner l'enfant après l'accouchement ou bien revendique un statut spécial ou un droit de visite. On accouche et en même temps, on est la nounou. Et donc ça, je crois que c'est très, très important. Et puis, alors ça, c'est du point de vue de l'enfant, parce qu'on oublie beaucoup l'enfant. Et puis, du point de vue de la femme, enfin, écoutez, on a quand même une réification de la femme et on a quelque part un bébé qui est conçu sur ordonnance. Moi, j'étais quand même très, très bouleversée lorsque les rapporteurs du groupe de travail nous ont donné la fiche des recommandations du groupe de travail sur la maternité pour autrui. Et quand j'ai lu conditions d'éligibilité strictes, agrément, exigence d'un agrément, régime légal et non contractuel, j'étais vraiment très bouleversée parce que j'ai eu l'impression qu'en tant que femme, mon corps, demain, pouvait être autorisé à être mis sur le marché dans telle ou telle condition. Voilà.
Là, vous employez une formule médicale, l'autorisation de mise sur le marché.
Oui, autorisation de mise de marché. Quelles sont les conditions requises de la gestatrice? Quelles sont les conditions requises des bénéficiaires? Bon. Et cela, moi, ça m'a profondément bouleversée. C'est-à-dire que dans la GPA, c'est son corps que la femme porteuse subordonne à la technique. Et encore, Agazansky a très bien posé la question philosophique concernant la grossesse. Elle est de savoir si elle appartient au domaine de l'avoir, à celui du faire ou à celui des lettres. Elle y répond en disant « la gestation relève de l'existence, donc de l'être de chacun ». Or, avec la gestation pour autrui, j'ai un processus de dissociation en dissociation, et qui fait que, eh ben, écoutez, on fragmente l'humain et on arrive à disparaître. Et on fait donc de la femme, à mon avis, une femme médicament, en l'autorisant, lui donnant une autorisation de mise sur le marché, après une procédure de certification et d'expertise, les conditions pour devenir mère porteuse, qui consiste en une ordonnance.
Et puis avec tout l'aspect mercantile, bien sûr.
Voilà, délivrée par le médecin, et qui va se concrétiser par un contrat passé entre la mère porteuse et les parents commanditaires.
On peut même imaginer des assurances là-dessus. Là, il faudrait quand même que la loi française évolue assez sérieusement quand même pour qu'on arrive à ce type de situation, non ?
Oui, mais on sera obligé de toute façon, si on légalise la GPA, d'avoir effectivement une réflexion sur le droit des contrats et le droit des conventions.
Mais Marie-Thérèse Armand,
si on a une réflexion sur le droit des contrats et sur en faisant rentrer le corps humain dans le droit des contrats,
c'est le cheval de Troie.
À ce moment-là, qu'est-ce que je fais de l'article du Code civil qui dit que toute convention qui a pour objet le corps humain est nulle ? Et à ce moment-là, vous pourrez avoir des femmes qui trouveront des avocats pour invoquer ce principe et garder l'enfant. Et on peut même peut-être arriver par là à un certain nombre de légalisations avec des femmes qui seront venues avec un passeport touristique ici et qui arriveront donc à ne pas à garder l'enfant. On peut imaginer toutes sortes de situations. On sera dans toutes sortes de situations parce que on est dans l'ordre de la fabrique de la vie. Est-ce que la société aujourd'hui consent à fabriquer la vie ? Et en contrepartie, fait par ailleurs de grands discours sur les droits de l'homme.
Mais est-ce qu'avec le bébé prouvette, déjà, on n'a pas mis le doigt dans cet engrenage inévitablement ?
Absolument. On est absolument...
C'est logique, somme toute.
Aujourd'hui, si vous voulez, la FIV, enfin disons la PMA, permet... Procréation médicalement assistée permet toutes ces mutations. Donc, si vous voulez... D'un point de vue anthropologique, la femme se trouve réifiée en femme médicament et l'enfant en bébé sur ordonnance. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'après le féminisme, après 1980, la Convention sur le droit de l'enfant, dont on a fêté il n'y a pas très longtemps en fait, l'anniversaire, on est en totale contradiction avec ce questionnement lié au féminisme. Non pas que je suis particulièrement féministe, mais j'ai envie de dire que, quelque part aussi, c'est pousser la parité à son paroxysme. C'est un argument qu'on n'a pas beaucoup entendu, parce que, en fait, qu'est-ce qui fait, moi, en tant que femme, ma spécificité ? C'est le fait que je donne la vie. Je donne la vie, bien sûr, je la partage avec celui qui m'a permis de la donner et de faire naître un enfant, mais c'est, je porte la vie. Et là, avec la fécondation in vitro, on se trouve dans un magma de filiation, de fragmentation qui fait que la vie, je la porte par procuration.
J'ai une question toute simple, Marie-Thérèse Armange, qui convient aussi aux mentalités modernes. Évidemment, ça s'adresse aux personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors, que pensez-vous de ce que dit le professeur Israël Nizan ? Je ne suis pas favorable à ce que l'on autorise tout, mais je suis favorable à ce que, dans certains cas, oui, ce soit possible. Chez les femmes qui ont perdu leur utérus étant jeunes, celles qui ont des malformations graves ou une absence totale d'utérus, précise le médecin.
Moi, je ne suis absolument pas d'accord, parce que, si vous voulez, à partir du moment où on lève une limite, qu'est-ce qui se passe ? Le législateur est obligé de se créer des cadres, ce que j'appelle des seuils anthropologiques, qu'il dépasse et qui, dans 5 ans, seront totalement révisables. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que je comprends la souffrance d'un certain nombre de femmes, effectivement, qui n'ont pas d'utérus et qui ont effectivement des ovocytes. Je comprends cette souffrance. Mais je dis que le législateur n'est pas là pour légiférer sur des cas individuels qui font que je vais être de l'ordre, effectivement, de la fabrique de la vie et que cette situation peut en entraîner bien d'autres. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on a levé une limite sur le questionnement de la vie, eh bien, on n'en finit pas. Parce que finalement, aujourd'hui, si vous prenez l'interruption volontaire de grossesse, lorsque on a légiféré sur l'interruption volontaire de grossesse, nous n'avions pas tous les progrès de l'échographie. Aujourd'hui, la conjonction de l'IVG, des progrès de l'échographie, du dépistage préimplantatoire, fait que, quelque part, et des hommes comme Israël Nizan le disent et l'écrivent aussi, on en arrive à une certaine forme d'eugénisme.
Même Simone Veil.
Et un certain nombre de médecins arrivent dans des contradictions qui font « où est la limite ?» Voilà, c'est toujours la même chose. Alors, je voudrais revenir sur un point, si vous voulez, qui me paraît aussi important, parce que dans la grossesse et gestation pour autrui, on a l'impression que la grossesse, c'est quelque chose de simple. Mais la grossesse, c'est un moment de joie, c'est un moment de bonheur, mais c'est un moment aussi de surveillance médicale. La grossesse, c'est un certain nombre de risques, on ne peut pas en faire l'économie. Il y a 2% de grossesse extra-utérine, il y a 11% de fausses couches, il y a entre 15 et 20% de femmes qui font des césariennes avec des complications de diabète, hypertension.
Mais ça, vous le prévoyez dans le contrat d'assurance, ça.
Il y a 3% de complications liées au risque d'anesthésie à l'issue d'une césarienne, à l'hystérectomie. On a auditionné un certain nombre de femmes qui avaient accepté d'être mère porteuse et qui, à l'issue de l'accouchement, avaient subi une ablation de l'utérus. Autrement dit, je vais, pour le cas que vous avez cité d'Israël Lisan, je vais proposer effectivement d'être mère porteuse à une femme qui a une ablation de l'utérus et à la suite d'un accouchement difficile, on va me faire une hystérectomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus. Et puis, il y a aussi, ça existe encore, on en a, y compris dans les grands hôpitaux, je pense à un cas en particulier, ce qu'on appelle une hémorragie de la délivrance entraînant le décès. Enfin, il y a un certain nombre de problèmes qui sont liés à l'enfant. Il y a 7% d'enfants qui sont prématurés, il y a 9% d'enfants qui naissent avec un faible poids de naissance, il y a 3% d'enfants qui ont un très faible poids de naissance, il y a beaucoup d'enfants qui ont un cordon mal placé qui peuvent entraîner une anoxie, il y a des pathologies survenant à la naissance, notamment des pathologies neurologiques. On ne peut pas les nier et ces pathologies, quelquefois, elles apparaissent pas immédiatement à la naissance, elles apparaissent après. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là,
ouais.
Je n'accepte pas, si vous voulez, l'enfant fabriqué idéalement que j'ai gardé, voilà. Donc c'est autant de questions qui se posent et il ne faut pas non plus omettre, on l'a entendu aussi par un certain nombre de professeurs de médecine, que la fécondation in vitro n'est pas indemne d'un certain nombre de manipulations et peut procurer un certain nombre de problèmes. Alors ça, c'est les risques médicaux. Puis vous avez aussi les risques psychiques. Ils sont présents pour la gestatrice, et puis ils sont présents aussi pour l'enfant ultérieurement, et ils sont présents aussi dans la relation du lien parent-enfant. Écoutez, on a vécu pendant une vingtaine d'années des débats tout à fait conséquents et importants sur les liens mère-enfant et sur la nécessité pendant toute la vie intra-utérine d'avoir une relation particulière avec l'enfant, et d'un coup d'un seul, il y a une indifférence totale sur ce lien qui se construit pendant la naissance. On le méconnaît, les liens qui se créent entre une mère et son enfant au cours de la naissance. Donc ça, je pense que c'est des éléments qu'il faut avoir en tête. Et ce qui m'a frappé, si vous voulez, dans les débats, c'est de voir des hommes considérés aujourd'hui comme très, très progressistes et qui ont été initiateurs de la fécondation in vitro, comme le professeur, par exemple, Friedman, ou des philosophes comme Sylvie Agacinski.
Oui, se montrer beaucoup plus réservé.
Qui gardait raison, parce que je crois que quelqu'un comme Friedman se trouve quand même confronté à des contradictions, comme beaucoup d'autres gynécologues. Et donc, tous ces questionnements les laissent perplexes.
Marie-Thérèse Armange, avec toute cette mise en garde, ces mises en garde, ces risques que vous avez mentionnés, on voit bien qu'on risque d'ouvrir une boîte de Pandore absolument inouïe.
Oui.
J'imagine que le politique a quand même conscience de cela. Donc, est-ce que vous voyez à terme quand même ce débat aboutir sur une légalisation, ou bien est-ce qu'il va s'enliser, ou que le politique dira non, c'est pas possible, parce que là vraiment ça va devenir beaucoup trop compliqué.
En bon journaliste, vous me proposez autrement la question de la loi de bioéthique. Je peux pas vous dire aujourd'hui ce qu'il y aura dans la bioéthique, mais ce que je sens, c'est qu'il y a une très très forte pression. Je voudrais pas quand même laisser totalement sans réponse approfondir le questionnement que vous avez posé sur cette femme qui n'avait pas d'utérus, parce que je pense qu'il y a une différence éthique entre accompagner des situations en permettant l'établissement juridique de la filiation dans certains cas spécifiques et institutionnaliser une pratique qui reste d'exception. Parce que ce n'est pas l'amour dont sera aimé l'enfant qui est en cause, mais les circonstances objectives qui lui sont imposées pour venir au monde. Et on n'a pas évoqué là tous les problèmes qu'il peut y avoir au regard des droits de succession et autres qui sont peut-être pas essentiels. Mais moi, je favorise, si vous voulez, une politique de la recherche sur la stérilité avec un financement à la hauteur des espoirs placés. Je favorise aussi, dans la ligne du rapport Colombani qui a été remis au président de la République au mois de mars, une réforme des règles relatives à la l'adoption, qui reste, me semble-t-il, l'alternative incontournable. Et je pense aussi, si vous voulez, vous venez me poser une question sur est-ce que le politique est conscient. Moi, je veux dire que j'ai quand même travaillé pendant 6 mois sur ces questions pour essayer, au-delà d'options, si vous voulez, religieuses, personnelles, de regarder tous les éléments objectifs. Et j'ai vraiment conclu au fait qu'il était impossible, pour moi en tout cas, en tant que législateur, de, si un texte venait, de légaliser l'abandon, puisqu'elle bouleverse la filiation, elle réifie la femme, elle contribue à l'exploitation de la misère humaine, on n'en a pas parlé. Elle comporte, vous savez qu'actuellement, c'est un grand marché en Inde. Vous savez qu'aux États-Unis aussi, il y a des agences. Alors, les agences pour avoir des enfants noirs, pour avoir des enfants
ça existe,
Nobel,
absolument.
Etc.
Sur Internet, on peut
le voir. Et qu'elles fragilisent la construction identitaire de l'enfant. Voilà, ce sont des questions qui sont importantes pour notre société, parce qu'aussi, si vous voulez, il y a une autre question qu'il faut se poser, je crois qu'il est aussi fondamental, vous posez une question, puisque vous faites une émission sur le cadre de la vie, c'est que toute décision individuelle qui rejaillit sur le législateur pour légaliser un fait induit une situation personnelle, mais a des conséquences au niveau collectif, sur les principes juridiques dont j'ai parlé tout à l'heure.
Naturellement. Merci beaucoup Marie-Thérèse Armange. Après le un enfant si je veux, c'est un peu le un enfant comme je veux. C'est
absolument
aussi dans la filiation.
Absolument.
Parce qu'on parle de filiation, là on
absolument
est dans une filiation idéologique. Je rappelle que vous êtes sénateur UMP de Paris, membre du Comité national consultatif d'éthique, ancien député européen, que vous avez publié notamment « L'enfant soi-disant roi » aux éditions Albin Michel ou « Le guide pratique des parents » aux éditions Hachette. Merci beaucoup.
Merci.